RCF.
Et à 18h10, il y a du monde autour de la table du 18-19 en région, 18-19 animé par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Fabrice a bien teasé nos invités, effectivement, il y a du monde autour de la table. On va commencer par les habitués du mardi, notamment Jean-François Boulanger qui est avec nous. Jean-François, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous emmènerez du côté de la Bosnie-Herzégovine à Medjugorje, épisode 2 ce soir avec vous.
Oui, on va présenter donc les protagonistes des apparitions, ceux à qui la Vierge est sans doute apparu, et puis ceux qui s'y ont posé, c'est-à-dire la milice communiste, entre autres choses.
On vous retrouve dans quelques secondes pour ce nouveau numéro de Mémoire chrétienne. À mes côtés, Marion Yernard, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Vous nous présenterez la météo à l'intérieur du journal régional. Vous n'êtes pas venu seul, Papou est dans le public.
Exactement.
Bon, on laissera peut-être dire un petit mot à Papou à l'antenne tout à l'heure. On le regarde, pour l'instant, il observe comment se passe l'émission. Et lorsque l'on parle du journal régional, on reviendra sur le week-end jubilaté organisé par le diocèse de Reims et les Ardennes. Ça s'est passé pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. 3 invités seront en direct avec nous pendant le journal. Ils sont déjà autour de cette table. On va commencer par les saluer. Elles ne sont pas du tout stressées. Tout va bien. Thaïs est avec nous. Thaïs, bonsoir.
Bonsoir.
Juliette également est là. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Alexis.
Et enfin, un jeune homme pour accompagner ces deux jeunes filles. Bonsoir Léon.
Bonsoir Alexis. Bonsoir à toutes et à tous.
On vous retrouve à l'intérieur du journal régional, donc à 18h30. Au programme ce soir, un maire qui nous parle, Arnaud Ninin et l'édile de Bouvancourt dans la Marne. Et puis en deuxième partie d'émission, on présentera les draisines du Grand Morin avec l'association du chemin de fer touristique de la Traconne qui porte donc cette association. Nous serons également avec Gérard Petit, créateur du site Rémois de Reims qui présente le quartier Saint-Remy, Barbâtre, Verrerie. Peut-être que ça vous parle, Jean-François Boulanger, je vous vois le pouce levé, c'est un site qui est plutôt
ah
top.
Ah oui, c'est un site effectivement très intéressant. Hein.
En tant qu'historien, forcément, ça vous plaît. Et puis on présentera une exposition, elle s'appelait Solange, Christelle Lomère et Daniel Moreau seront avec nous pour nous en parler. 18h12, passé de 35 secondes exactement, l'heure de retrouver Jean-François Boulanger pour un nouveau numéro de Mémoire chrétienne. On vous retrouve aussi dans d'autres cadres, Jean-François, vous le savez. Il faut recommencer à chaque fois au début. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Medjugorje, acte 2. Les acteurs des apparitions, nous avons évoqué le contexte géographique et historique des apparitions de Medjugorje. Nous sommes dans la partie sud-est de la Bosnie-Herzégovine, alors partie intégrante de la Yougoslavie communiste. Cette région pauvre est peuplée par des catholiques croates et marquée par une forte immigration des hommes en âge de travailler, principalement vers l'Allemagne. Et au sein de cette région, un hameau à la limite des terres arables et d'un maquis d'épineux ou de rocailles. C'est là que des jeunes gens affirment avoir vu la Vierge pour la première fois en date du 24 juin 1981. Jean-François Boulanger, la question est simple. Qui sont ces jeunes gens ?
Qui sont ces jeunes gens ? Eh bien, les premières apparitions, effectivement, ont eu lieu les 24, 25, 26 et 30 juin 1981. Et le premier jour, donc le 24 juin, elle concerne deux jeunes filles. Il y en a une qui s'appelle Ivanka, qui a 15 ans, et une autre, Mirjana, qui a 16 ans. Toutes deux quittent vers 17h le hameau pour une promenade au pied de la colline que vous avez présentée il y a quelques instants. Ce jour-là, c'est la Saint-Jean, c'est-à-dire c'est un jour férié pour les catholiques du district, bien qu'on soit donc dans un régime communiste. Donc elles sont libre ce jour-là, il n'y a pas de tâche agricole à accomplir, il n'y a pas d'école. Ivanka réside dans la commune et est scolarisée dans un collège de Mostar, qui est à 30 km à peu près. Mirjana, elle, est scolarisée dans un collège de Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, où demeurent ses parents, et elle est en vacances chez sa grand-mère, dans la maison de la petite exploitation familiale. Et pour se reposer, les deux amies s'assoit sur un rocher, sur le bord de la route, et fume une cigarette. Et alors qu'elle redescend vers le village, Ivanka tourne la tête vers le haut de la colline et aperçoit une silhouette brillante, celle d'une femme. Et alors elle dit, je la cite, « Regarde, la Vierge !» Alors la Vierge, en croate, ça veut, c'est la Gospa. Elle s'exclame alors, et donc Mirjana répond tout de suite, sans regarder, comment la Vierge t'apparaîtrait. Autrement dit, elle ne la croit pas. Elles continuent leur chemin, elles croisent une autre jeune fille, Milka, qui a 13 ans, qui leur demande de l'aider à rassembler ses moutons qui sont éparpillés dans le maquis, quand soudain, la silhouette apparaît de nouveau, 300 mètres plus haut que la première fois, et toutes les trois tombent à genoux, saisies d'une forte émotion, et récitent leur prière. Et la silhouette donc tient dans ses bras un bébé qu'elle couvre et qu'elle découvre.
Par rapport aux éléments que vous venez de nous présenter, Jean-François Boulanger, par conséquent, trois jeunes filles sont concernées par ces apparitions successives du 24 juin.
Oui, pour l'instant, parce qu'une quatrième jeune fille va entrer dans le jeu. Elle s'appelle Vika, elle a 16 ans. C'est leur voisine. Dans le matin, elle avait pris le car pour Mostar où elle devait passer un examen de rattrapage scolaire. Il était convenu entre, avec ses deux copines, Ivanka et Myriana, de les rejoindre vers 17h, là où elle se promène. Et lorsqu'elle arrive sur place, elle aperçoit ses amis qui, je cite, « sont en train de fixer quelque chose sur la colline depuis le bord de la route ». Elle s'arrête et c'est alors qu'elle discerne, elle aussi, quelque chose comme une forme. Et apeurée, elle ôte ses sandales, elle s'enfuit en direction du village. Là, elle tombe en larmes devant deux jeunes gens du village, Ivan Dragichevich et Ivan Ivakovitch. La jeune fille leur demande de la raccompagner parce qu'elle a peur. Alors, et là, Ivan Dragichevich voit à son tour l'apparition, il s'enfuit à son tour. Le deuxième Ivan, si je puis dire, déclare dans un premier temps qu'il avait vu quelque chose de blanc qui bougeait, et puis il se rétractera. Et c'est alors que Vika voit l'apparition avec plus de netteté. C'est une jeune femme aux cheveux noirs, robe grise, fichue. Elle porte effectivement quelque chose qu'elle couvre et découvre sans cesse, mais elle n'a pas pu voir ce que c'était. Et la forme fait signe aux jeunes gens de s'avancer. Aucun d'entre eux n'ose le faire. Vika s'enfuit de nouveau, les autres restent encore 5 minutes, il est 18h30, il pleut légèrement, il fait sombre et ainsi prend fin la première apparition. Et ultérieurement, le groupe va se modifier parce que justement Milka et Ivan Kovic vont affirmer qu'elles n'ont plus jamais vu la Vierge depuis. Par contre, lors de la deuxième apparition, une dénommée Maria, sœur de Milka, et Yakov Kolo, qui a 10 ans, vont rejoindre le groupe des « entre guillemets voyants » qui a désormais sa configuration définitive.
Jean-François Boulanger, dans cette chronique Mémoire chrétienne, vous êtes un homme de lettres, mais si on fait un petit calcul mathématique rapide, c'est donc au total 6 jeunes gens qui sont concernés par l'apparition, 4 filles, 2 garçons.
Voilà, hein, et ce sont eux qu'on va appeler désormais les voyants. Et ce sont eux qui vont être les principaux acteurs de ces apparitions, mais pas les seuls, parce que pour qu'une apparition ait des répercussions, qui seront celles de Medjugorje, il faut que les voyants parlent, il faut qu'ils soient écoutés, que leurs paroles soient prises au sérieux d'une manière ou d'une autre, soit pour lui apporter crédit, soit au contraire pour la faire cesser.
Qui sont ces acteurs indirects des apparitions ?
Alors les parents d'abord, parce que quand ils rentrent, ces jeunes gens racontent tout ça à leurs parents, qui au départ les croient pas trop, et puis certains font quand même leur approchement avec Lourdes, et on conclut qu'il est bien possible que des apparitions de la Gospa, autrement dit la Vierge, aient lieu le jour suivant. Et c'est Ivanka qui le racontera au vicaire de la paroisse, un peu plus tard, en disant que dans la soirée du 24 et dans la journée du 25, tout le monde ne cessait de leur dire comment elle était apparue 18 fois à Lourdes, elle, la Vierge, à la même occasion. Et donc, c'est la mémoire de Lourdes qui finalement rend audible auprès d'une grande partie du village le témoignage des voyants. Une anthropologue qui s'appelle Isabelle Clavry nous dit « Si on prend au sérieux le récit des jeunes gens, c'est parce que ça a déjà eu lieu, elle est déjà apparue, elle a déjà été identifiée ailleurs, avant, par d'autres. Ailleurs, quelque part, un lieu en garde la trace, en réactualise les faits par la mise en culte de cet événement, un pèlerinage. C'est Lourdes à quoi elle fait allusion. Donc elle est déjà venue pour parler à des enfants. Les habitants du village le savent grâce au catéchisme. La Vierge, par ailleurs, a parlé en patois, comme à Lourdes, à une enfant, une bergère. Et pour lever définitivement le doute, on a recours à une méthode empruntée à la culture traditionnelle que la grand-mère de Myriana suggère à sa petite-fille, l'aspersion d'eau bénite de l'apparition en prononçant la formule « Si c'est la Gospa, si ce n'est pas la Gospa, nous verrons vraiment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Si tu es la Gospa, reste avec nous. Si tu ne l'es pas, va-t'en. »
Jean-François, vous venez d'évoquer le clergé. Quelle est la réaction du clergé local ?
Alors, le clergé local a une particularité, c'est qu'il est composé de franciscains. Et les rapports des franciscains avec l'évêque local sont difficiles parce qu'ils relèvent de l'autorité de leur ordre et non du diocèse. Le curé s'appelle Joso Sovko, il a un vicaire, le père Cuvalo. Le père Joso soumet d'abord les voyants à des interrogatoires extrêmement serrés pour voir s'ils se recoupent ou pas. Puis il va se rallier à la thèse de l'authenticité des apparitions et il sera peu après arrêté.
En une minute, rappelons effectivement que la Yougoslavie est alors dirigée par le Parti communiste.
Oui, alors le Parti communiste ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe à Medjugorje. Le troisième jour des apparitions, la milice se présente d'ailleurs chez la mère de Maria, parce que Maria dépend du travail de son mari, qui a un visa à l'étranger pour aller travailler en Allemagne. Et si on lui retire son visa, c'est une catastrophe pour la famille. Et donc, dans les jours qui suivent, il y a de nouvelles arrestations. Les enfants sont emmenés au poste. Ils en ressortent, mais on les intimide incontestablement. On les emmène notamment à l'hôpital de Mostar, chez un psychiatre. On les fait attendre dans la morgue, histoire de les impressionner. Et puis, le père Jozo va également être convoqué. Et il est finalement arrêté le 17 août 1980, parce que dans son homélie, il avait relaté le récit d'une femme de Split, pas très loin de là, qui, dans une confession, expliquait qu'elle avait vécu depuis 40 ans dans les ténèbres de l'esclavage, et c'est maintenant une nouvelle naissance spirituelle avec elle. 40 ans, c'est-à-dire depuis que les communistes sont là. Et donc, voyez, le Parti communiste va l'arrêter, mais il va utiliser également une autre arme pour lutter contre tout cela. Ça va être justement, c'est pour ça que ça nous intéresse, l'arme de la mémoire.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus.
À la semaine prochaine.
Le 18-19 sur RCF.
18h21 sur RCF en Sardaigne, RCF Cœur de Champagne, avant le journal régional, c'est le rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Un maire qui nous parle, Arnaud Nina, édile de Bouvancourt, est en ligne avec Jean-Pierre.
Arnaud Nina, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le maire de Bouvancourt. C'est l'occasion pour nous de situer un peu la commune. Elle est dans les Ardennes ou elle est dans la Marne?
Alors, la commune de Bouvancourt, c'est une commune qui est au nord-ouest du département de la Marne. On est contigu au département de l'Aisne, tout à fait au nord-ouest.
Monsieur le maire, on est content de vous avoir et d'en savoir un peu plus sur votre commune. C'est combien d'habitants aujourd'hui à peu près Bouvancourt?
Bouvancourt, c'est environ 180-190 habitants. Il y a quelques années, on était à plus de 200. En ce moment, c'est légèrement en baisse.
Et vous êtes vous-même, Arnaud Nina, maire de Bouvancourt, depuis combien de temps?
Alors moi, j'ai été élu en 2020, la dernière mandature. J'ai succédé à M. André Hubert, qui avait été maire pendant 31 années consécutives.
Mais alors, vous étiez peut-être déjà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maires qui apportent leur témoignage, déjà au conseil municipal, vous étiez peut-être déjà adjoint, vous étiez déjà un peu au courant du fonctionnement d'une commune.
Oui, j'avais fait la mandature précédente, j'ai été deuxième adjoint pendant 6 ans.
Alors, quand on parle de la commune de Bouvancourt aujourd'hui, c'est des retraités, c'est des agriculteurs, est-ce qu'il y a des quelques jeunes qui arrivent ou des gens qui disent « Ah ben, on est mieux habité à la campagne qu'en ville » et c'est aussi parfois, à la suite du Covid, il y en a qui ont décidé de ça, par exemple.
Alors, à la suite du Covid, on n'a pas eu beaucoup de mouvements à la suite du Covid. Mais en majorité, alors il y a quelques familles qui sont des Bouvancourtois de longue date, et on a quand même une forte population de personnes jeunes qui travaillent sur Reims ou aux environs.
Et ça fait combien de kilomètres de Reims, justement? Parce que là aussi, on aime bien la campagne, mais on se dit il faut pas être trop loin non plus.
Non, ben, grosso modo, par rapport au nord de Reims, secteur Neuvillette, on est à 17 km, et secteur Tinqueux, c'est à peu près la même distance.
Oh mais c'est rien, 17 km. Parce que quelqu'un qui habite à l'autre bout de Reims, qui travaille à l'autre bout de Reims, bah, les kilomètres, il les fait presque.
Ah oui, le matin, en 20-25 minutes, on est au faubourg de Reims.
Alors justement, monsieur le maire, on dit toujours que de tous les élus, et c'est cette mission que les Français considèrent comme la plus proche. Un député, un sénateur, un conseiller départemental. Bon, mais le maire, c'est celui qu'on voit tous les jours. Vous connaissez tous les habitants de Bouvancourt, pratiquement.
Oui, oui, je les connais quasiment tous et tous me connaissent.
Et vous étiez né vous-même à Bouvancourt? Vous étiez un enfant du village, comme on dit?
Non, moi je suis un Bouvancourtois assez récent. Ça fait une trentaine d'années que j'habite sur la commune. Moi je suis originaire des Ardennes.
Ah, et de quelle commune dans les Ardennes? Ça c'est intéressant.
De Cliron,
Cliron,
petite commune,
bien
à
sûr,
côté de Charleville-Mézières.
Qu'on connaît bien parce que je me souviens, c'est un peu une remarque personnelle, je me souviens que dans ma jeunesse, quand nous passions à Cliron, il y a très 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 longtemps, sur la route de Tournes, après Tournes,
oui,
nous rencontrions les frères Beugnot, qui étaient les grands basketteurs. Ils avaient de la famille à Cliron et ils étaient toujours devant leur maison le dimanche. Je ne sais pas si vous avez connu, parce que vous êtes beaucoup plus jeune, vous, Arnaud Nina, mais c'était les grands du basket dans les Ardennes, de l'Étoile de Charleville-Mézières.
Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne les ai pas connus.
Alors, revenons à la commune de Bouvancourt. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un ou deux projets? Souvent, on dit, on essaie de rendre le village un peu plus propre, un peu plus accueillant. On va essayer d'avoir une fleur ou deux fleurs, ou je ne sais pas. Où vous en êtes, vous, monsieur le maire?
Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un conseil municipal qui est assez actif. Des personnes qui s'occupent de la commune, qui s'occupent du fleurissement, du désherbage. Et des gens qui sont des conseillers qui sont très actifs et d'autres qui ne sont pas membres des conseils mais
qui donnent
facilement un coup de main. Et j'ai la chance d'avoir deux associations actives sur la commune qui font vivre la commune. Et ce qui est important, c'est pas une commune dortoir, c'est une commune où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît, où tout le monde se rencontre régulièrement autour d'une galette des rois, d'une fête patronale, d'un festival photo. On a un festival photo qui va fêter sa 10e année cette année, le 23-24 mai.
Donc c'est bientôt, peut-être qu'on aura l'occasion de vous... Ça c'est une bonne idée, parce que peut-être que dans la semaine qui précède, je me permettrai peut-être de vous rejoindre pour faire un petit peu de pub, parce qu'on peut participer même de l'extérieur à ce festival photo.
Alors c'est un festival photo qui est organisé sur la commune de Bouvancourt, mais qui n'était pas entièrement organisé par Bouvancourt. C'est le club photo de Buisson, qui, il y a une dizaine d'années, cherchait un endroit, un petit village pour organiser son exposition. Et depuis, ça perdure, et ça perdure bien. Ça augmente chaque année, la fréquentation augmente, et on est en partenariat. Nous, on est les aidants à Bouvancourt, on est les aidants, on fournit des locaux, un peu de matériel, etc., pour que tout se passe bien, pour que le club puisse s'organiser et inviter des photographes de marque.
Vous disiez, Arnaud Ninin, que les personnes aiment se retrouver. Ça, c'est caractéristique maintenant des demandes des habitants. Dans les villes, c'est assez anonyme. On ne connaît pas parfois son voisin de l'étage du dessus ou du dessous dans les appartements. Mais là, ça veut dire que le week-end, de temps en temps, vous avez parlé de la galette des rois, mais il peut y avoir d'autres rencontres l'été, on va se retrouver. C'est un esprit un peu plus familial. Et ça, les gens sont très attachés à ça maintenant.
Oui, c'est familial, c'est amical. Tout le monde sur Bouvancourt, tout le monde connaît ses voisins et tout le monde se rencontre plusieurs fois dans l'année. C'est très courant.
Alors, monsieur le maire, on a abordé le village, la beauté du village, l'embellissement. Bon, il y a des travaux peut-être qui sont en cours, qui sont prévus, et que ce soit dans le cadre de l'assainissement, de la voirie, de plusieurs choses.
Alors, oui, actuellement, là, le gros projet de 2024, c'est la réfection de la façade de la mairie. C'est une mairie assez ancienne qui date de la reconstruction d'après-guerre, parce que le village avait subi beaucoup de dommages pendant la guerre 14-18. Et donc là, on refait la façade, on va lui donner un coup de jeune, on va la garder dans son style, parce que je pense que c'est important, ça ne sert à rien de changer le style.
Absolument.
Le style de la mairie. Et les Bouvancourtois, ils sont très attachés d'ailleurs. Donc on va lui donner un bon petit coup de jeune. Et puis, à court terme également, pour l'année 2025, c'est la réfection de la voirie, la rue de Ventelet, c'est sur la départementale numéro 30. Et là, c'est en partenariat avec le département, le Grand Reims également, le CIEM, etc. Donc c'est beaucoup d'intervenants pour refaire une rue, pour enfuir les réseaux.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a quand même... Pour les maires, comme pour beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de contraintes administratives qui sont sans doute très très lourdes. Il y a des exigences environnementales, etc., etc. Mais ça plaît quand même aux habitants, parce que ça va redonner quand même, pour cette rue, un petit coup de jeunesse quand même, pour la façade de la mairie. Bon, tout ça, mine de rien, quand on fait l'addition, ça compte.
Oui, tout à fait, tout a un coût. Évidemment, on obtient les subventions, on arrive à avoir des aides de l'État, du département, mais bon, il y a toujours forcément un reste à charge pour la commune, et sur les petites communes, on n'a pas beaucoup de rentrées d'argent, hormis la taxe foncière et l'aide de l'État, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc, la gestion de la commune, c'est une gestion, je dirais, en bon père de famille. Quoi. Il faut toujours...
On regarde son toujours, budget.
Voilà, regarder le budget et toujours garder une porte pour la soif, parce que
bah oui.
Par exemple, ce matin, il y avait quelques petits dégâts dans l'église dû dû à un petit dégât des eaux, et donc il a fallu refaire ça.
Ah oui, et ensuite, c'était pas prévu, ça, hein, il va falloir. Écoutez, Arnaud Ninin, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le maire de Bouvancourt. On reparlera du festival photo, si vous le souhaitez, dans quelques semaines. Bah, et puis, bien. On vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Au revoir.
Effectivement, merci à tous les deux. On retrouvera un nouveau maire qui nous parle demain aux alentours de 18h20 dans le magazine régional. Mais à 18h30, on lance le journal régional. Les titres de ce mardi 19 mars, le diocèse de Reims et des Ardennes organisait son week-end annuel jubilaté vendredi, samedi et dimanche. Un beau moment de fête raconté par Juliette, Thaïs et Léon en plateau avec nous. Châlons en Champagne accueille le vendredi 22 mars la journée de l'archéologie qui fait le point sur les récentes découvertes en Champagne-Ardenne, une journée ouverte au public.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Rassemblement diocésain du diocèse de Reims et des Ardennes pour les 14-18 ans, le week-end jubilaté a été organisé cette année vendredi, samedi et dimanche dernier. Juliette, Thaïs et Léon, vous avez tous les trois 17 ans, vous êtes avec nous pour témoigner de cette expérience. Qu'est-ce que chacun de vous, vous avez envie de retenir de ces trois jours? Léon, je vais vous laisser y aller en premier parce que j'ai l'impression qu'il faut quelqu'un pour détendre l'atmosphère. Là, il y a de la tension autour de la table.
Et ben justement, c'est la joie surtout pendant ce week-end qui a marqué mon esprit, que des personnes joyeuses ont s'amusé, on était tous ensemble autour du Christ, à le prier, à le louer avec de belles soirées pop louanges, on y reviendra juste après, ou maintenant, comme tu souhaites.
Bah écoute, tu peux en parler un petit peu si tu veux.
Du programme ?
Allez, tu peux en parler.
Ok, alors je vous fais un petit résumé de ces trois journées. On a commencé avec le vendredi soir où on est arrivé aux alentours de 19h et on a eu une pièce de théâtre sur le thème du sport et de la religion qui était très sympa, donc justement dans l'amphithéâtre du lycée Saint-Joseph. Donc c'était une petite soirée pour nous mettre en jambes, avec on s'est retrouvé dans le gymnase de Saint-Joseph, on a partagé quelques moments musicaux ensemble. Puis un petit coucher, Alexis, à l'internat, forcément le meilleur moment. La deuxième journée, on a commencé, c'est des temps de partage, des soirées, des activités sportives qu'on a fait ensemble en groupe. Une soirée pop louange animée par un groupe de musique qui nous a suivis pendant tout le week-end. Et on a terminé par une adoration à la chapelle de Saint-Joseph. Et le dimanche, une messe animée par Monseigneur Dumoulin Beaufort.
Ça, c'était pour le programme. Et au début, tu nous as dit ce que tu avais envie de toi de retenir, la cette joie partagée autour du Christ. Juliette, je me tourne désormais vers toi. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement pendant ces trois jours?
Moi, je pense que c'est la soirée pop louange qui nous a permis de prier de façon différente que d'habitude.
Thaïs, c'est pas forcément évident, mais lorsque l'on passe ta dernière, est-ce que tu as des idées différentes de ce que viennent de nous dire Juliette et Léon?
Oui, moi je dirais les rencontres qu'on a faites tout au long du week-end. On a vraiment rencontré des personnes super bien et je pense qu'on les reverra encore longtemps.
Quand tu parles de rencontres, ce sont les rencontres avec les adultes ou les rencontres avec les jeunes aussi, les moments que vous avez partagés ensemble?
Oui, surtout des jeunes de notre âge.
Eh bien voilà, c'est pour expliquer à nos auditeurs, Jubilaté, c'est une proposition faite justement aux jeunes de vivre un rassemblement d'église en complément de la pastorale déployée dans chaque secteur paroissial, dans les collèges, dans les lycées. Ce sont aussi des moments de partage, de célébration, de chant et de prière. Le tout cette année autour du thème « Un esprit saint dans un corps saint ». Comment cela s'est traduit, Léon, lors des différentes activités? Parce que tu parlais du thème tout à l'heure et des activités. Comment ça s'est traduit juste autour de ce thème-là?
Par la pièce de théâtre et des activités sportives où on revenait aussi sur les termes de la foi avec ce côté d'unité qu'on est tous ensemble et qu'on est tous rassemblés vers Dieu. Et je rajouterais juste une petite chose par rapport à Jubilaté qui est d'ailleurs obligatoire pour toutes les personnes voulant se confirmer du diocèse de Reims. C'est quelque chose d'obligatoire.
Et donc, toi, par exemple, tu as fait cette démarche avec l'idée d'être confirmé d'ici quelques semaines?
C'est ça, confirmé en fin mai.
Juliette, la confirmation, le rendez-vous est pris également?
Ah non, moi je l'ai déjà fait l'année dernière.
Toi c'est déjà fait, et Thaïs, la confirmation?
Pareil, je l'ai fait l'année dernière.
Voilà Léon, tu es le petit retardataire parmi la bande. Trois jours de rencontres pour partager dans la joie sur le sens à donner à sa vie. Est-ce que l'on resigne pour l'année prochaine?
Je vais laisser l'honneur
à Thaïs. T'as vu, l'année prochaine, on y retourne?
Oui, totalement. Moi, j'y retournerai volontiers.
Ouais, parce que c'est vraiment des moments où on a envie de retrouver les copains. Tu disais tout à l'heure, ça permet de faire des belles connaissances, etc. C'est ce qui donne envie.
Oui, c'est vrai. Et après, c'est vraiment des moments convivial qu'on passe tous ensemble.
Juliette, on re-signe aussi?
Je re-signe aussi.
Ok, ça c'est fait. C'est très court, mais c'est simple et efficace. Léon?
Moi, je re-signe. Et d'ailleurs,
et tu donnes les dates.
Et je donne les dates. Je n'ai pas le lieu. Hein. Ils ne connaissent pas encore le lieu. Ça peut être à Sacré-Cœur, ça peut être à Saint-Joseph. Souvent, ils alternent. Mais ce sera le 21, 22, 23 mars 2025. On vous attend nombreux. On était 240 ce week-end. C'était beaucoup plus que l'année dernière où ils étaient à peu près 150. Donc, on espère être encore plus nombreux. N'hésitez pas. Si
si
vous avez des petits-fils, des fils, et que vous nous écoutez, proposez-leur, ça fera plus de monde et on pourra tous se rassembler autour de Dieu.
Et je crois qu'avant de se quitter, vous vouliez nous parler des pogos.
Ah, c'est effectivement quelque chose, des jeunes qu'on a bien aimé, effectivement. Nous, on aime faire la fête et faire la fête autour de Jésus, c'est encore plus amusant. Et à côté, encore plus joyeux.
Merci à tous les trois, Thaïs Cousin, Juliette Delhomme, Léon Rigobert, d'être venus en direct pour nous présenter cet événement organisé par le diocèse de Reims et des Ardennes, et en particulier la Pastorale des Jeunes. La Fédération de la Marne du Secours Populaire Français organise ses grandes chasses aux œufs solidaires en mars avec deux rendez-vous. Le premier dimanche prochain, le 24 mars, au Parc de Champagne à Reims, et le second mercredi 27 mars au Parc Croix-Cordier à Tinqueux. Initié par le mouvement Copains du Monde, ces chasses aux œufs invitent les enfants à participer concrètement au programme de solidarité monde du Secours Populaire Français. Dans la Marne, Secours Populaire soutient notamment les projets de solidarité à Madagascar et à Haïti. Les places sont à réserver en ligne en passant par le site de l'association. Après 2 ans d'expérience non concluante autour de l'autopartage, la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne s'engage pour proposer des solutions de covoiturage aux habitants de ces 14 communes. Les élus ont voté une délibération afin d'entamer un partenariat avec l'application BlaBlaCar Daily. La communauté de communes, l'État et BlaBlaCar s'engagent à mettre à disposition une enveloppe totale d'incitation financière de 30 000 euros pour convaincre les habitants. Les sols de la Champagne-Ardenne regorgent de traces du passé et leur découverte raconte toute une histoire. Comme chaque année, à Châlons-en-Champagne, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est et la Société archéologique champenoise organisent à l'Auditorium Pelloutier la journée de l'archéologie, l'occasion de faire le bilan des fouilles récemment réalisées en Champagne-Ardenne, comme nous l'explique Axel Le Thor, ingénieur d'études à la DRAC Grand Est.
C'est un programme qui couvre plusieurs périodes chronologiques et qui permet de rassembler les différents acteurs de l'archéologie, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, et également les amateurs. On a un accueil des participants à partir de 8h30 et ensuite on a 4 sessions de communication qui durent environ un quart d'heure chacune, espacées par des pauses, des moments de débat, de questions. Programme très varié, il va couvrir les différents départements de l'ancienne région Champagne-Ardenne. Donc on a à la fois les résultats des fouilles archéologiques, mais on a aussi des doctorants qui viennent nous présenter les résultats de leur thèse. On a aussi des communications très intéressantes sur l'ADN à partir d'une fouille du néolithique dans l'Aube. Également le résultat de fouilles dans les Ardennes qui ont donné des résultats vraiment fantastiques.
Des propos recueillis en ligne par Christopher Fausten de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. 15 présentations de fouilles et de recherches à découvrir ce vendredi de 8h30 à 17h à l'Auditorium Pelloutier, 1 place de Verdun à Châlons-en-Champagne. L'entrée est libre. Alors que l'on parle de plus en plus du retour du port de l'uniforme à l'école et que la ville de Reims s'est portée candidate pour mener l'expérimentation à partir de la rentrée de septembre 2024, lors du conseil municipal hier soir, la première adjointe Véronique Marchais a révélé les 5 écoles concernées, Voltaire, Sculpteur Jacques, Maison Blanche, Alfred Gérard et Mazarin. Avant de refermer ce journal, place à la météo. C'est avec notre stagiaire à la rédaction, Marion Yernard. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce mercredi ?
Alors il me semble que l'arrivée du printemps nous porte chance pour ce mercredi 20 mars avec 10 degrés sur tout le territoire et du soleil dès le matin pour Sainte-Menoux dans la Marne ainsi qu'à Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine dans l'Aube. Charleville-Mézières dans les Ardennes, Reims et Sézanne dans la Marne auront des nuages. Le reste de la région aura de la brume qui se lèvera en milieu de matinée pour laisser place aux 20 degrés et du soleil dans l'après-midi. Demain, nous fêterons la Sainte Herbert. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion pour cette météo et ces tendances. On vous retrouvera évidemment tous les soirs du lundi au vendredi. Et puis à vos côtés, on lui fait souvent des dédicaces à l'antenne. Il y a Papou qui est là, qui est présent en studio. Papou, c'est l'occasion d'entendre aussi votre voix. Il s'appelle Christophe pour nos auditeurs sur RCF en région. Christophe, lorsque l'on voit, lorsqu'on entend sa fille présenter la météo, on imagine que c'est une fierté.
Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs assez perturbant d'entendre la voix au niveau de la radio par rapport à la voix réelle. Mais sinon, effectivement, en tant que papa, c'est super. On est super fiers. D'ailleurs, je manque pas d'enregistrer tous ces passages. Je les fais écouter à tous mes collègues.
Bon, eh bien, on garde tous les passages. Comme ça, sera l'occasion aussi d'avoir de très beaux souvenirs. Merci, Christophe, d'assister avec nous à ce direct et puis de voir comment ça se passe. C'est l'occasion de relier ce message à nos auditeurs. Si vous avez envie de venir voir une émission en direct, le magazine régional, c'est possible. On se fera un plaisir d'ouvrir les portes de nos studios. Ainsi se referme notre journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et Marion vous l'a dit à l'intérieur de la météo, demain commence le printemps pour cette année 2024 et en cette période particulière, RCF vous invite à découvrir le département de la Marne de façon originale et ludique grâce au cyclodrésine du Grand Morin, découverte avec l'association du chemin de fer touristique de la Traconne. Patrick Gauthier est avec notre correspondant Christian Lanciot.
Bonjour Patrick.
Bonjour Christian.
On était venu vous voir, je crois que vous veniez d'être président, je crois qu'il y a 2 ans à peu près. Vous avez repris le flambeau. Vous allez peut-être nous faire d'abord un petit peu l'historique de ces drésines du Grand Morin qui donc empruntent une ancienne ligne de chemin de fer.
Oui, donc cette association-là, elle est en route depuis 1992 ou 1995. Au départ, c'était avec le Picasso qui circulait le week-end, enfin ou certains week-ends entre Esternay et Cézanne à l'époque.
Alors le Picasso, c'était le torrent rouge et jaune.
C'est ça. Donc à l'époque, c'était monsieur Jean-Claude Bersotter qui s'occupait de cette association-là, et c'est lui qui a mis cette association-là en route. Et les cyclodrésines, on a commencé en 2000, je crois que c'est en 2002, sur Esternay, et un peu plus tard sur Joiselle, je crois que c'est 2008, parce que la ligne, le tronçon sur Joiselle n'était pas nettoyé encore. Donc c'est monsieur Bersotter avec 2-3 bénévoles à l'époque qui ont remis la ligne en état, c'est-à-dire enlever toute la végétation qui avait repris ses droits, afin de pouvoir circuler librement avec les vélos.
Donc, on peut dire que ça fait plus de 20 ans donc, que ces drésines, appelées plus communément vélorail, on peut le dire, circulent. Rappelez-nous un peu le tronçon de cette ligne ferroviaire. Alors.
Donc, on propose 3 parcours qui démarrent d'Esternay jusqu'à Neuvy, c'est-à-dire un parcours qui, aller-retour, fait à peu près 8 km. Et sur Joiselle, on propose 2 parcours, un qui va vers l'est, vers Esternay, jusqu'à Neuvy, et un parcours qui va vers l'ouest, vers des gauchers, mais on s'arrête à la limite de département.
Vous nous faites un peu l'historique de cette ancienne ligne ferroviaire dont vous parlez ?
Cette ligne-là, c'est la ligne qui faisait Paris-Cézanne à l'époque. Et elle a ouverte en 1885. Et la gare, elle a été construite, il n'y avait pas de gare à l'époque, elle était construite en 1890. À Joiselle, cette ligne-là, elle était en circulation, c'était jusqu'en 1972. Il y a quelques trains de marchandises qui ont continué jusqu'au début des années 80. Quoi. Et après, la ligne a fermé. Sur Joiselle, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on roule sur cette ligne, depuis qu'elle était remise en état. Quoi.
Donc cette ligne a été complètement, on peut dire, neutralisée, enfin fermée donc, par la SNCF entre La Ferté et Cézanne.
C'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de trafic. Il y avait 3 allées et 3 retours par jour avec le Picasso, donc train de voyageurs, plus les marchandises qui circulaient. Et à la gare de Joiselle, elle était assez importante parce qu'il y avait quand même 5-6 voies. Il y avait une mini-gare de triage, on va dire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de denrées agricoles qui partaient de la gare de Joiselle.
Il y avait des wagons de lait,
je
crois. Hein.
Je ne sais pas, mais il y avait des wagons de betteraves qui partaient, ouais. Les pulpes qui revenaient, ils envoyaient de la paille. Et du foin sur Paris pour les chevaux au début du XXe, quand il y avait beaucoup de chevaux sur Paris et les régions parisiennes.
On revient aux drésines. Alors donc, vous nous avez dit qu'il y a 2 sections, une qui part d'Esternay vers Neuvy. C'est ouvert quand ça ?
Cette année, on va être, par rapport à la dernière, on va ouvrir moins longtemps. Ça sera ouvert juillet-août. Hein. Et sur Joiselle, on est ouvert sur réservation, il faut quand même appeler avant. Autrement, on est ouvert tous les jours à partir de Pâques jusqu'à la Toussaint, en gros. Ouvert pratiquement tout le temps. De préférence, faut mieux appeler au numéro de téléphone au 06 82 09 13 99.
Patrick, là, si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, c'était ouvert donc à Joiselle en principe du 31 mars, donc à la fin du mois là, et jusqu'à la Toussaint, mais que même toute l'année sur réservation, on peut le faire.
Tout à fait.
Bien, alors maintenant, on va dire aux futurs touristes intéressés, puisque vous voyez quand même pas mal de monde quand même dans une année.
En 2023, on a fait autour de 800 Drésines, ce qui représente à peu près 2800 personnes. Sur les trois parcours qui viennent de Reims, de la région parisienne, on a des IME, des écoles, des associations, donc, et puis des particuliers.
Donc effectivement, donc 800 Drésines, il y a 4 places par Drésine.
C'est ça.
Donc 4 places par Drésine, 2 qui pédalent et 2 qui se reposent, quoi.
C'est ça.
Patrick, je crois que vous avez donné envie aux auditrices, auditeurs, de venir donc faire un tour de Drésine, du Grand Morin. Au revoir à tous.
Merci de nous avoir donné envie de venir faire un tour. Patrick Gauthier, Christian Lanciot, vous étiez ensemble depuis Esternay, une animation familiale, conviviale à découvrir, vous l'avez compris, dans le sud-ouest marnais. Les billets sont à prendre sur place. Possibilité de réservation au 06 82 09 13 99, 06 82 09 13 99, ou en passant par internet sur le site esternay-patrimoine-velorail.fr.
Le 18-19 sur RCF.
18h46 et on reste avec nos amis de RCF Cœur de Champagne qui nous proposent une belle découverte jusqu'au 14 avril. Les Champardonnais sont invités à découvrir l'histoire de la famille Ast, une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement le destin de Solange, ancienne élève du collège Victor Duruy à Châlons-en-Champagne. RCF vous propose donc ce soir de découvrir l'histoire et les animations prévues autour de l'événement avec Christelle Lemaire et Daniel Moreau au micro de Christopher.
Christelle Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres au collège Victor Duruy à Châlons-en-Champagne. Merci d'être avec nous, accompagnée de Daniel Moreau. Bonjour.
Bonjour.
Fille de Lily, l'amie de Solange qu'on va présenter dans quelques instants. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation dans le studio de RCF Cœur de Champagne. Dans un premier temps, Christelle Lemaire, est-ce qu'on peut présenter l'histoire de ce projet ?
Oui, c'est une belle histoire qui nous tombe dessus en juillet 2015. Nous sommes une équipe de professeurs chevronniers du collège Victor Duruy et nous avons envie de travailler ensemble sur l'histoire locale. Et nous avons un sujet d'intérêt en commun, c'est le génocide des Juifs. Et au détour d'une formation au mémorial de la Shoah, on nous dit que pour qu'un projet fonctionne avec des élèves, il faut que ce projet soit ancré dans l'histoire locale. Donc grâce à Internet, nous découvrons l'histoire de Solange, une jeune fille qui fut élève à Duruy, pendant la guerre, parce que Duruy, c'était une école pour les filles. Et nous découvrons aussi que cette jeune fille était gymnaste au club de la Renaissance, club avec lequel notre établissement a un partenariat depuis plus de 30 ans.
D'accord.
Et donc, avec les collègues, nous nous disons, c'est à nous de raconter cette triste belle histoire. Voilà. Il nous a fallu un an entre septembre 2015 et septembre 2016 pour réunir assez de documents pour travailler sur l'histoire de cette jeune fille juive, qui fut victime de la Shoah avec sa famille. Et puis, en 2016, première promotion d'élèves de 3e, qui travaille sur cette histoire. Voilà. Une des tâches finales, ou la tâche finale de notre projet, c'est de faire vivre un concours de gymnastique, le trophée Solange-Ast, qui fut créé justement en mémoire de Solange par le club de la Renaissance, et qui perdura jusque dans les années 50. Donc nos élèves, au fil du projet, portent la mémoire de la famille Ast, mais aussi de l'ensemble des victimes du génocide des Juifs, et en fin de projet, font revivre cette compétition sportive avec des prestations d'acrosport. Ce projet, en 2018, a eu droit à une jolie couverture par le Journal de l'Union. Et le Journal de l'Union disait des choses sur notre travail, notre projet. Et il y a une vieille dame qui est abonnée à ce journal et qui voit le nom de Solange-Ast qui dit « mais ça, c'était mon ami ». Et l'article qu'elle lit ne lui plaît pas tout à fait. Donc elle fait téléphoner sa fille au collège.
D'accord.
Pour non pas que nous rendions des comptes, mais quand même. pour que nous puissions discuter. Voilà. Oui. Et cette vieille dame, c'était Lily. Et Lily, c'est à elle que Solange écrit quand elle est à Lyon entre juillet 42 et août 43, puisque Solange habitait Châlons, puis Saint-Mémy. Fin juin 42, quand le danger devient trop grand dans la Marne, la famille part du côté de Lyon. Et Solange part du jour au lendemain, mais elle garde contact avec cette Lily qui était son amie. Et Lily, plus de 70 ans après, avait conservé une dizaine de lettres de Solange. Voilà.
D'où cette exposition autour de ces lettres qu'on va présenter dans un court instant. Daniel Moreau, exactement. Solange, qui est de Châlons-Champagne, pas totalement, est originaire d'Aï-Champagne.
Ma mère est originaire d'Aï, mais Solange était originaire de Belfort.
D'accord. Oui.
Elles ont fréquenté toutes les deux l'école du Ruy et elles prenaient le tramway ensemble, celui qu'on appelait le tramway le Péril Chaud. En fait, ma mère ne nous en avait pratiquement jamais parlé. On connaissait l'existence de Solange, mais elle n'en parlait pas du tout. Quand elle a vu l'article dans le journal L'Union, j'étais là, elle m'a dit « mais c'est pas possible, moi je suis l'amie de Solange ». Et d'ailleurs, j'ai des photos et j'ai des lettres, alors chose que j'ignorais totalement. Comme je suis une ancienne enseignante, je lui ai dit « il faut téléphoner avec qui ?»
Ben oui.
Et c'est comme ça qu'a commencé toute l'histoire.
Cette exposition, Christelle Lomer, elle va avoir lieu du 19 mars au 14 avril aux archives départementales de la Marne. Comment va être présentée? Comment va se dérouler exactement cette exposition?
Alors, il se trouve que depuis 2016, notre projet a pris de l'ampleur. Et avec les collègues, nous avons eu envie de faire connaître cette triste belle histoire à l'ensemble de la population. D'où l'idée d'exposer les lettres de Solange, les originaux des lettres qui actuellement sont au mémorial de la Shoah. Et ces lettres-là, elles sont importantes parce qu'elles font revivre cette jeune fille qui était gay, qui adorait le cinéma, qui adorait danser, le swing, qui aimait Charles Trenet. Elles rendent compte aussi de
l'histoire de Châlons aussi.
L'histoire de Châlons, bien sûr. La menace qu'elle sentait aussi peser sur elle et dont elle parle à mots couverts. Et autour de ces lettres, les archives départementales proposent aussi des documents issus de leurs fonds et qui racontent l'histoire de Châlons, Châlons dans la guerre, Châlons sous l'occupation.
Donc une exposition à découvrir aux archives départementales de la Marne, à destination du grand public.
Alors à destination du grand public, oui bien sûr, à destination des scolaires aussi. Il y aura un livret pédagogique et un atelier qui sera proposé. Il y aura donc deux week-ends d'ouverture, le 23 et le 24 mars et le 13 avril, 14 avril. Et le samedi après-midi, Madame Moreau et puis moi-même, nous serons présentes pour faire une visite personnalisée de l'exposition.
Impressionnant de découvrir ça dans les prochains jours du côté des archives départementales de la Marne avec donc des lettres et aussi des documents.
Alors voilà, des documents issus des fonds des archives départementales, des documents assez émouvants comme le récépissé signé par la maman de Rachel concernant la réception des étoiles.
Oui.
Un témoignage oral très émouvant d'une autre amie de Solange que nous avions rencontré et enregistré en 2017 déjà.
Christelle Lomer, l'exposition n'est pas la seule manifestation. On retrouvera des conférences, des ateliers et rencontres d'auteurs aussi.
Oui, nous voulions créer un véritable événement. Donc, nous recevrons le lundi 25 mars Tal Brutman, qui est un historien spécialiste de la Shoah, pour deux conférences. Nous recevrons aussi une personne du mémorial de la Shoah, qui va nous parler justement du recueil, de l'exploitation des archives privées.
Oui.
Une personne du mémorial de Montluc aussi, pour expliquer ce qu'était Montluc et comment Montluc travaille avec les établissements scolaires.
Alors l'exposition, rappelle, du 19 mars au 14 avril au centre de Châlons-Champagne des archives départementales. L'inauguration qui aura lieu le 21 mars 18h. En parallèle, des conférences, des ateliers, rencontres d'auteurs. Même lecture d'ailleurs, Christelle Lomerin, lecture de lettres par l'école Lavoisier le 10 avril du côté de Vinay.
Oui, puisque ces lettres, elles nous permettent de savoir qui était Solange, qui sautait d'ailleurs les cours de maths avec ses amis à Lyon.
C'était juste pour écrire à ma mère. Donc,
voilà, c'est pardonné. Ça. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, des élèves de 3e du collège du Ruy vont lire, conjointement avec des élèves de CM2 de l'école de Lavoisier, des extraits de lettres de Solange, oui, le 10 avril à l'abbaye de Vinay, en clôture du cycle de conférences.
Daniel Moreau, revenons sur la rencontre d'auteurs du 9 avril, qui sera, entre guillemets, la rencontre sur la jeunesse du livre « La jeune fille à la tresse ».
Oui, c'est un livre qui a été écrit par une amie à moi, qui a entendu parler de cette histoire au moment où, justement, on rencontrait les enseignants de Victor Duruy, et qui a été fascinée par quelques lettres que je lui avais présentées. Et donc, elle a bâti un roman. C'est un roman. Hein, c'est donc,
d'accord. Oui.
L'histoire est totalement romancée, mais en se servant absolument de toutes les anecdotes qu'a pu lui raconter ma mère. Elle l'a rencontrée plusieurs fois. Elles ont beaucoup échangé, puisque Françoise habite Montréal, au Québec. Et elles ont beaucoup échangé par Internet et par mon intermédiaire en même temps. Et donc, cette histoire-là s'est bâtie comme ça. Et c'est un livre vraiment qui est superbe. C'est une belle histoire qui ne trahit pas Solange, bien au contraire. Et c'est vraiment quelque chose qui est fait, oui, pour rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui ont traversé qui ont traversé cette terrible histoire de la Shoah.
Où aura lieu exactement la rencontre d'auteurs ?
À la médiathèque.
À la médiathèque, dont d'ailleurs le livre est déjà disponible à la médiathèque.
Le livre est déjà disponible à la médiathèque.
Et on rappelle les séances de dédicaces à la librairie du Mot le 6 avril prochain. Tous ces rendez-vous de cette belle manifestation autour de ce projet, elle s'appelait Solange, à découvrir sur notre site rcf.fr et les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Merci Christelle Lemaire et Daniel Moreau d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle Christelle Lemaire, professeure de lettres au collège Victor Duruy à Châlons-Champagne, et Daniel Moreau, fille de Lily, l'amie de Solange, qu'on invite bien sûr nos auditeurs à découvrir à travers cette exposition courant mars aux archives départementales de la Marne. Merci mesdames.
Merci.
Merci, au revoir.
L'inauguration, c'est dans un petit peu moins de 48 heures, ce jeudi à 18h, en présence de Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À 18h55, un très court passage en studio, désormais celui de Gérard Petit. Il est le créateur du site Rémois de Reims, qui présente le quartier Saint-Remy, Barbâtre et Verry. Extrait de l'entretien au micro de Jean-Pierre Benoît.
Gérard Petit, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que pour celles et ceux qui s'intéressent à Internet et au patrimoine local, ils connaissent votre site Rémois de Reims, Barbâtre, Saint-Remy, Verry. Vous parlez du quartier, mais comment l'idée vous est venue, Gérard Petit ?
L'idée m'est venue lorsque j'étais membre du conseil de quartier. Je me suis mis dans la commission patrimoine et j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses, notamment par la suite en déambulant dans le quartier. Mes déambulations m'ont amené à me poser des questions sur des marques patrimoniales dont je n'avais absolument pas l'idée auparavant.
Il faut dire quand même, Gérard Petit, que ce quartier, il y a Saint-Remy dedans. Donc il y a forcément la basilique Saint-Remy. On peut être omnubilé par la basilique Saint-Remy, mais pas que. Donc dans le quartier, en déambulant, vous avez découvert les richesses et l'histoire de ce quartier.
Exactement. La basilique Saint-Remy, naturellement, est un fleuron du patrimoine local, du quartier. Mais bon, il y a des spécialistes qui s'en occupent. Moi, je préfère m'intéresser aux petites marques patrimoniales. Par exemple, derrière le chevet de la basilique, nous avons le monument en hommage à Ambroise Petit, qui avait fondé l'Orphéon.
C'est pas parent avec vous, Gérard.
Non, aucun lien de parenté.
Ambroise Petit.
Ambroise Petit. Une autre déambulation m'a amené à me poser la question, mais qui est ce Marcel Batreau ? Il y a une plaque sur le parapet du pont Fléchambault. Marcel Batreau est le héros de la résistance. Donc je ne connais pas. Je fais une petite enquête. Je contacte les gens compétents. Et en fonction de ça, je fais un sujet.
Sur votre site.
Ce qui est naturellement publié sur le site.
Alors on va revenir sur le contenu de ce site. Mais sur le fond, en ville, les gens ne se connaissent pas. Et quand ils arrivent à Reims, dans ce quartier, Barbâtre, Saint-Remy, Verry, ils ont plein de choses à découvrir et ils aimeraient bien être acceptés par ceux qui sont du cru. Est-ce que finalement, votre site, il permet à ces personnes de mieux connaître leur quartier, évidemment, mais peut-être de mieux s'insérer dans une vie associative et dans une vie de quartier?
C'est un peu le manque justement derrière ce site, parce que ce site est un site personnel, mais qui n'a pas l'appui, qui n'est pas adossé sur une association. Mais j'y pense. Pour donner plus d'ampleur et effectivement pour recevoir plus de gens. Je suis déjà dès maintenant contacté par des personnes qui me suggèrent des sujets à traiter et c'est pour moi l'occasion de faire de belles rencontres.
Et des belles rencontres, c'est tout ce que l'on souhaite de faire à Gérard Petit. Évidemment, si vous avez été intéressé, vous pouvez retrouver l'interview intégrale avec Gérard Petit et Jean-Pierre Benoît en passant par le site rcf.fr dans la rubrique programme. Vous sélectionnez les invités et informations du matin ou à 7h ou à 8h et donc à la date de ce mardi 19 mars, il y aura l'interview de Gérard Petit. Ce sera aussi l'occasion de voir comment le contacter. Vous pouvez évidemment passer par son site internet Rémois de Reims, qui, vous l'avez compris, est consacré au quartier Saint-Remy, Barbâtre et Verry notamment. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui va prendre le relais. Le retour de vos programmes locaux, c'est juste après l'information, à 19h12, notamment sur RCF Reims-Ardenne. J'allais dire la méditation, mais je crois qu'on rediffuse les conférences de carême de Mgr Eric de Moulin-Beaufort. Fabrice, je fais appel à mon joker. Que se passe-t-il le mardi à 19h12 ?
Les deux, mon capitaine, la méditation à 19h12 et la conférence de carême à 19h30.
Voilà, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, même si Fabrice est beaucoup plus grand, aussi bien par la taille que par l'esprit, évidemment. Pour l'heure, il est temps de remercier Marion Yarnard, que l'on retrouvera demain, notre stagiaire à la rédaction, avec de nouvelles tendances météo. Une très bonne soirée, Marion.
Très bonne soirée à vous.
Et puis, l'heure de remercier Papou, Christophe, qui est venu faire un petit tour en studio. Christophe, un grand merci d'être venu assister à ce direct. Et puis, on espère que ça a été une belle découverte pour vous. C'était votre première fois en radio?
Tout à fait. C'était ma première fois en radio. Mon expérience est minimum. C'est juste du podcast. Et je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli ici.
C'était un très grand plaisir pour nous de t'avoir à nos côtés. Une très belle soirée à tous nos auditeurs. On vous remercie pour votre fidélité. Le magazine régional revient demain, mercredi, à 18h10 et l'information locale dès 7h du matin sur RCF Reims-Ardennes. Ça sera Faisal Abderrezek, l'invité de Jean-Pierre Benoît.